Allô? La médecine libérale va très mal. J'ai besoin de votre aide. C'est une urgence! Une urgence!
Vous êtes médecin libéral? Tout va bien? Vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur La Voix des libéraux, le podcast sans tabou des médecins libéraux, produit par l'URPS Médecins libéraux Île-de-France. L'URPS Médecins libéraux Île-de-France, c'est l'union professionnelle qui représente et accompagne les médecins franciliens exerçant en libéral. Ce podcast est animé par la journaliste Sidonie Watrigan.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce 9e épisode de La Voix des libéraux, un podcast proposé par l'URPS, émission enregistrée en public. Notre souhait, notre objectif, c'est répondre sans langue de bois à toutes vos interrogations, vous, médecins d'Île-de-France, sur un sujet précis. Et aujourd'hui, on va parler de la 4e année de spécialité de médecine générale, dont les contours ont été présentés avant l'été par le ministre de la Santé de l'époque, François Braun, juste avant de quitter ses fonctions. Cette année supplémentaire est loin de faire l'unanimité parmi les jeunes médecins, car elle incite aussi les docteurs juniors à rejoindre les déserts médicaux contre incitation financière. Elle questionne également côté maître de stage, comment va s'organiser la supervision, y aura-t-il suffisamment de médecins formés pour garantir un bon suivi de ces internes. L'idée de notre discussion du jour, c'est de comprendre d'abord les contours de cette réforme, avec ses objectifs et ses modalités d'application. Et pour cela, nous sommes avec le professeur Olivier Saint-Lary. Bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
Oui, merci. Vous êtes président du Collège national des généralistes enseignants, médecins généralistes installé à Poissy et co-auteur du rapport sur l'ajout de la 4e année de médecine générale, duquel s'est inspiré très largement le gouvernement pour sa réforme. Également avec nous, les docteurs Richard Anchou, bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Paul Hamon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux co-coordinateurs et coordinateurs de la commission médecine générale URPS médecins. Alors, on va commencer par une question très simple, hein, professeur Saint-Lary. Qu'est-ce qui a motivé la décision de créer cette 4e année de spécialité en médecine générale?
En 2017, il y a eu une grande réforme des DES de médecine qui a concerné 43 DES sur 44 et qui avait pour objectif d'améliorer la qualité de la formation avec une plus grande progressivité, avec trois phases pour l'ensemble des DES, une phase socle, une phase d'approfondissement et une phase de consolidation. La phase de consolidation, son objectif, c'était vraiment la professionnalisation et préparer au mieux les internes à leur exercice futur. Comme je vous le disais, 43 DES ont été concernés, sauf la médecine générale, qui n'a pas été dotée de phase de consolidation à cette époque, faute d'enseignants et de terrains de stage. Donc ça, c'était en 2017, et avec une clause de revoyure, en fonction de l'évolution des terrains de stage, il y a eu une progression très forte du nombre de maîtres de stage. Donc en 2011, on devait être à 5000 à peu près. En 2017, on était à un peu moins de 9000. En 2022, on était à plus de 12000. Les chiffres cette année seront connus là, en fin d'année. Et les discussions qu'il y avait eu avec les internes à l'époque, en 2017, étaient de dire, lorsqu'on sera à 12000 maîtres de stage universitaires, on aura des conditions acceptables pour atteindre probablement autour de 15 000 mètres de stage universitaire dans 3 ans, c'est-à-dire lorsque la phase de consolidation sera effective. Et donc c'est pour ça que ces conditions étant réunies, il n'y a pas eu de raison de faire de différence entre le DES de médecine générale et les autres DES, et on a pu rejoindre le droit commun, avec un objectif avant tout pédagogique, d'amélioration de la qualité de la formation, et des bénéfices secondaires attendus sur le fait que des professionnels mieux formés et plus aguerris à la gestion de leur outil professionnel vont peut-être plus s'installer demain, et on l'espère avoir plus de professionnels à disposition des patients.
Elle est nécessaire cette année supplémentaire, messieurs, l'un ou l'autre, hein?
Alors, je trouve que le champ de la médecine générale est le plus vaste de tous les champs de médecine, et il était tout à fait illégitime que ce soit la formation la plus courte. Donc oui, bien sûr, une 4e année est nécessaire, à condition qu'elle soit encadrée avec un vrai enseignement, avec des référents des référents sur le terrain, et puis une rémunération à la hauteur de ce que les médecins de cet âge-là sont en droit d'exiger.
Jean-Paul Hamon.
Alors, je suppose que toutes les informations n'étaient pas bien perçues, parce que ça a été vécu comme une 10e année qui était imposée aux seuls médecins généralistes. C'était important que les études soient identiques pour les autres, pour les généralistes et pour les autres spécialités. Seulement, la façon dont elle a été imposée, ça a été mal vécu parce que, quand vous êtes préparé, que vous allez rentrer dans les études, que vous êtes préparé à 9 ans et qu'on vous dit que vous allez faire une année de plus, à faire exclusivement, quasiment, dans les déserts médicaux. Et franchement, là, les conditions incitatives n'étaient pas réunies. Et on comprend l'opposition là, l'opposition qui s'est créée.
L'opposition, elle est d'ailleurs manifestée par une question qu'on vous pose, là on va l'écouter dans un instant, de Cédric Cardozo, qui est interne de médecine générale et président du syndicat SRP-IMG.
Bonjour professeur Saint-Lary, Cédric Cardozo pour le syndicat des internes de médecine générale d'Île-de-France. À titre liminaire, je rappellerai l'opposition des internes quant à l'introduction de cette 10e année d'études. Maintenant qu'elle nous est imposée, nous avons évidemment de nombreuses interrogations et inquiétudes. Premièrement, qu'est-il prévu pour la procédure du choix des internes quant à leur stage de phase de consolidation, dans la mesure où la réforme du troisième cycle prévoit en effet une procédure d'appariement et non de choix au classement? Or, cela implique que les internes et les maîtres de stage notent respectivement une certaine proportion de maîtres de stage et d'internes. Or, comment est-ce réalisable en pratique? Comment, par exemple, en Île-de-France, chaque MSU notera 80% des plus de 500 internes et vice-versa? Quelles seront les garanties quant à l'équité de la procédure? Merci.
Alors, merci beaucoup pour cette question. Je pense qu'il y a deux niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est autour de effectivement la grande crainte qu'il y a eu autour de la coercition, du fait d'être obligé d'exercer dans des zones sous-denses. Et je rejoins parfaitement la remarque qui a été faite. La communication et la présentation qui a été faite au lancement du rapport et au lancement de l'étude, enfin sur la faisabilité de cette quatrième année, nous a pas franchement aidé. Et effectivement, ça a été perçu par les internes comme une dixième année à faire dans les déserts médicaux. Enfin, honnêtement, quand on lisait la presse, on avait l'impression qu'ils allaient être héliportés, qu'on allait leur donner un sac de riz et qu'ils allaient se débrouiller, alors que c'était vraiment pas l'idée qui était en train de se construire. Donc on a auditionné beaucoup de monde dans le cadre de la mission. Il y a eu plus de 40 structures qui ont été auditionnées, et notamment des structures jeunes. Et je tiens à le dire ici, parce que je pense que c'est vraiment important, sur les plus de 40 structures qui ont été auditionnées, aucune, et quand je dis aucune, c'est pas non plus les représentants des collectivités territoriales, par exemple, aucune ne s'est dite favorable à une coercition, à une forme d'obligation à exercer en zone sous-dense. Voilà. Donc les préconisations du rapport, et qui a priori sont vraiment retenues par les ministres concernés, sont de faire de cette dixième année une année d'enseignement, et avec des terrains de stage qui seront incité en zone sous-dense par un bonus, mais sur lesquels il y aura aucune obligation d'exercice en zone sous-dense. Deuxième point, par rapport à la procédure de choix, donc ce qu'a très justement dit Cédric Cardozo, c'est que ça sera différent des procédures de choix que connaissent les internes de médecine générale sur les premiers semestres. C'est-à-dire que c'est pas un choix en fonction du classement, mais c'est un choix en fonction du projet professionnel, en fonction de ce qui s'appelle le big matching, le grand appariement, pour le dire de manière très triviale, c'est une sorte de grand Tinder sur lequel le maître de stage va classer le choix des internes qu'il préférait avoir, et l'interne va choisir les stages qu'il préférait avoir en fonction de ses appétences d'installation en futur.
Donc, pour poursuivre la métaphore de Tinder, le maître de stage pourra swiper et donc refuser d'avoir certains internes.
En tout cas, il va choisir parmi les internes qui souhaitent exercer chez lui celui ou celle qui, avec qui il a le plus d'affinité. Et voilà. Alors, évidemment, ça pose des questions techniques importantes parce que cette procédure d'appariement, elle est faite dans les autres DES sur des cohortes qui sont plus petites. Alors, il y a des DES qui ont des cohortes assez importantes, la psychiatrie, l'anesthésie, par exemple, mais aucune au niveau de la médecine G. Hein, c'est près 4000 internes par promo, donc c'est vraiment beaucoup de monde. Et notamment dans les subdivisions comme l'Île-de-France, c'est sûr qu'il y a des ajustements qui vont être à prévoir. Donc, à l'heure actuelle, on y travaille avec CIDEP, la conférence des doyens, pour essayer d'anticiper toutes ces difficultés. On a un petit peu de temps, mais il faut évidemment y travailler intensément. Et il n'est pas exclu que, dans le cadre d'une très probable future lettre de mission qu'on va recevoir de la part des ministres pour affiner sur certains points, ce point-là soit aussi à l'ordre du jour, parce que ça va nécessiter des ajustements techniques de la procédure pour le DES de médecine générale, et donc on y travaille, et probablement avec, sans vouloir entrer trop dans les détails, mais un nombre de choix proposés aux internes et aux maîtres de stage qui sera peut-être un peu plus limité que sur d'autres DES, parce que sinon ça va faire effectivement des cohortes qui vont pas être gérables en pratique.
Jean-Paul Hamon, vous vouliez réagir ?
Oui, non, je pense sincèrement que là, il fallait vraiment obtenir du ministère une incitation forte, quoi. Quand on impose une dixième année, comme ça a été vécu, on a vaguement parlé du logement, il faut savoir quand même que c'est des gens qui sont en fin de cursus, qui ont généralement une famille. Quand vous allez dans un désert médical, la moindre des choses, c'est de dérouler le tapis rouge. C'est-à-dire que vous faites une dixième année, si vous allez dans une zone désertique, on double le salaire. on met un intéressement à l'activité à partir de 40 consultations, on lui donne 50%, etc. Que le gars qui va, ou la femme qui va aller dans un désert médical faire son stage, il doit au moins être garanti d'avoir 5000 euros par mois, d'avoir un logement, etc. Et de faire en sorte qu'il soit avec et qu'en plus, il est au moins 2 mètres de stage au téléphone. Moi, je me souviens de mes premiers remplacements il y a maintenant une cinquantaine d'années, j'étais rassuré de pouvoir avoir au téléphone un de mes collègues. Je l'ai appelé 3 fois en 3 semaines, mais le simple fait de l'avoir en téléphone, c'était totalement rassurant. Ensuite, vous découvrez, si vous êtes dans une zone vraiment de désert médical, vous découvrez une médecine qui est réellement une médecine de premier recours et qui est passionnante à exercer. Et si, dans ces conditions de stage, et pour les communes qui vont être intéressées, si le maire de la commune, si vous êtes seul, vraiment seul, à ce moment-là, il faut vous mettre un secrétariat présentiel et faire en sorte que le local d'accueil soit correct. Si vous êtes dans un groupe médical où vous avez un secrétariat présentiel, vous avez un secrétariat présentiel et vous bossez dans de bonnes conditions. Quand on met une 10e année, il faut garantir à cette 10e année des conditions d'exercice optimales et une vraie incitation. C'est ça. La 10e année, elle était capitale pour que la médecine générale ait la même longueur d'études. Mais en même temps, pendant la négociation conventionnelle, au moment où on impose cette 10e année, on voit que est instauré et réinstauré un différentiel entre le tarif de la consultation du médecin généraliste et le tarif de la consultation des autres spécialistes. Je peux vous dire que c'est extrêmement négatif. Et donc, tout ça, il va falloir le corriger et le corriger vite.
Est-ce que la correction est envisageable et possible?
Alors, plusieurs choses par rapport à ce qui a été dit. D'abord, pour rassurer sur les internes sur le fait qu'ils ne se retrouveront jamais seuls. Ça s'est ancré dans la loi du PLFSS 2023. Les stages de phase de consolidation se feront nécessairement dans les structures où exerce au minimum un médecin généraliste. Donc il n'est pas question de les envoyer tout seuls dans des murs sans personne autour. Ensuite, ils auront une supervision, donc ils auront un maître de stage universitaire. On pourra revenir sur les spécificités qu'on a proposées dans le rapport, mais ils seront encadrés sur le plan pédagogique. Il est vraiment pas question de les laisser en autonomie totale sans maître de stage à disposition. Ensuite, pour ce que vous avez dit sur la question de l'accueil, du logement, des murs, on est parfaitement d'accord. Le rapport insiste lourdement. Il y a tout un chapitre dessus et sur l'enjeu de travailler avec les collectivités territoriales dès maintenant, parce que en fait les questions notamment de foncier, ça s'anticipe 2-3 ans en avance, et donc ils vont arriver en 2026, en 4e année. Donc ça veut dire qu'il faut absolument se rapprocher maintenant des acteurs qui peuvent aider à développer les locaux pour accueillir ces jeunes collègues. Et dernier point, sur la rémunération des internes, les préconisations du rapport, alors qu'ils sont pas encore complètement arrêtées par le ministre, mais le précédent ministre avait quand même donné quelques pistes. L'idée, c'est effectivement de les inciter à avoir une partie de leur rémunération qui provienne de leur activité libérale, dans une logique de professionnalisation et aussi dans une logique d'amélioration de leurs revenus. Vous avez raison, à leur âge, le revenu de docteur junior est probablement pas tout à fait en adéquation avec ce qu'ils apportent à la société. Donc là-dessus, il y a une vraie amélioration, en plus des primes qui auront lieu en zone sous-dense qui seront assez importantes.
Les chiffres qui avaient été annoncés dans la presse, donc je ne sais pas si c'est une bonne communication, c'était 400 euros d'incitation financière supplémentaire pour ceux qui exercent en zone sous-dense et un salaire qui pourra s'élever jusqu'au plafond 4500 euros net. Ça vous confirmez?
Oui, alors en fait, c'est pas vraiment un salaire. Ce qui pour l'instant est retenu comme scénario, c'est de dire que les docteurs juniors de médecine générale bénéficieront de la même partie fixe que ce qu'on peut bénéficier à l'hôpital. Simplement, ils ne bénéficieront d'aucune prime dont bénéficient les collègues docteurs juniors hospitaliers. Et au lieu de bénéficier de ces primes, ils auront un intéressement sur leur activité en libéral. Et donc, le tout cumulé, ça ferait un salaire plus un bénéfice qui s'approcherait effectivement des 4500 euros pour ceux qui auraient une activité soutenue de l'ordre de 25 consultations par jour en tant que docteur junior.
Une question?
Oui, bonjour, Léo Cilion, je suis interne en médecine générale à Paris et pendant longtemps je me suis occupé au syndicat des internes des questions de médecine générale. On a eu déjà l'occasion d'échanger avec le professeur Saint-Lary. Quelques points de réponse, il y a plusieurs choses qui ont été abordées et on a dit voilà qu'on allait discourir sans langue de bois et en transparence, et du coup je voulais juste quand même revenir sur certains points. On entend beaucoup cette notion justifiée de dire voilà, on a allongé le DES de médecine générale, notamment puisqu'il n'y a pas de raison de sortir du droit commun, de ne pas avoir la même durée d'études que les autres. Vraiment, ça, c'est un point que nous, on rejette. Je vous le dis tout simplement, depuis l'annonce de l'allongement du DES de médecine générale, les psychiatres ont demandé et passent à 5 ans. Les gastro-entérologues sont passés à 5 ans. Les dermatos sont en passe de passer à 5 ans. Les urgentistes passent à 5 ans. si on veut rentrer dans la course à l'échalote, personne n'est gagnant, mais voilà, cet argument est quand même un argument limité. Sur la vraie problématique de cette idée de rejoindre le droit commun, je comprends le sentiment, mais on a un vrai problème avec, une fois que la quatrième année est annoncée, on dit bah, très bien, on s'aligne. Mais finalement, dans les détails, sur tous les points, on rogne et on revient sur une dégradation systématique du droit par rapport aux autres spécialités. On n'a pas les mêmes libertés que les autres docteurs juniors de spécialité. On va avoir, on nous l'annonce, des choix qui sont tronqués. On nous dit dans la même phrase, ce sera un choix selon le projet professionnel, mais finalement amputé sur un choix dégradé, puisque quand même on n'a pas les moyens techniques de garantir que votre projet professionnel soit possible. Je trouve qu'au bout de 10 ans d'études, c'est très léger comme garantie, et effectivement les internes nous sollicitent énormément, sont horriblement inquiets. On a eu l'occasion d'en échanger, je ne reviens pas dans tous les détails, mais actuellement les textes de 2017 sur lesquels on s'appuie sont inapplicables. Simplement et purement inapplicables à la médecine générale du fait de la taille des promotions. Et aujourd'hui, si la réponse est de dire finalement on s'aligne sur le droit commun, mais vous aurez droit à une version dégradée du choix et de votre projet professionnel, c'est à vrai dire encore source d'inquiétude pour les internes.
Alors, merci Léo pour ces remarques. Je pense que là aussi il y a plusieurs choses. Sur le côté course à l'échalote, j'entends, c'est pas tout à fait exact de dire que la demande de DES à 5 ans, c'est depuis qu'il y a le DES de médecine générale qui est acté à 4. Hein, les psychiatres notamment l'ont demandé depuis longtemps. Ça mûrissait chez les urgentistes aussi. Moi, j'ai pas de légitimité pour dire quelle est la durée optimale en fonction des objectifs pédagogiques des autres DES. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, avant que le DES de médecine générale soit porté à 4 ans, d'autres DES réfléchissaient déjà à un allongement. On verra bien ce qui sera retenu. Enfin, encore une fois, c'est pas à moi qui revient d'arbitrer ce genre de choses. Par contre, sur le fait que la formation et que la quatrième année de DES de médecine générale soit finalement moins disante pour la médecine générale, moi j'ai pas du tout ce ressenti. C'est même au contraire, j'ai l'impression qu'on fait un pas en avant très important. D'une part, on l'a évoqué tout à l'heure sur l'aspect de la rémunération. Je crois plutôt que c'est les autres spécialités qui aujourd'hui s'interrogent sur la possibilité de demander un statut de docteur junior ambulatoire équivalent, ou en tout cas une revalorisation du statut de docteur junior, parce que financièrement, les médecins généralistes qui vont exercer au plus près des patients dans les territoires auront une rémunération qui sera plus attractive que les autres spécialités. Donc je pense que ça, c'est un point positif pour cette quatrième année. Et deuxièmement, sur le choix de stage dégradé, peut-être qu'il faut que je le redise différemment. L'objectif, c'est bien de correspondre au projet professionnel des internes. Et si un interne, dans le cadre de son DES, de sa phase socle et d'approfondissement, a identifié un projet professionnel, a aidé à co-construire un terrain de stage et que le maître de stage l'attend, évidemment qu'il aura ce stage-là pour lui et on ouvrira autant de terrains de stage que de besoins correspondant au projet professionnel. Par contre, dans les situations où l'interne n'aurait pas vraiment encore maturé suffisamment son projet de stage et préfère choisir sur une liste déjà préétablie par les départements, il est possible qu'on puisse pas ouvrir le même nombre de choix sur Tinder que dans d'autres spécialités. Mais ça, encore une fois, lorsqu'on est dans une démarche proactive et de volonté de se projeter sur son projet professionnel, les départements de médecine générale ouvriront autant de stages que de besoins et donc il y aura aucune frustration à ce niveau-là pour les internes.
Richard Anjou.
Oui, moi je voulais parler quand même du point de vue des maîtres de stage. On est en peine pour recruter les maîtres de stage. On a énormément de difficultés mises en place par les départements et par le CNGE, semble-t-il. Nous sollicitons des confrères et via l'URPS, on le fait de façon efficace. Et ces confrères qui sont sollicités, lorsqu'on présente la liste au département, eh bien, ça ne se transforme pas beaucoup en réalité. La formation exigée, elle est exigée, mais elle n'existe pas. Il n'y a pas de stage actuellement. Et ce que je voudrais dire quand même, c'est que par rapport aux autres spécialités, quand on est maître de stage, je pense qu'on est beaucoup plus investi dans la formation de l'interne que tous les chefs de clinique de la Terre peuvent l'être, que cette proximité qu'on a avec les internes, tu doutes ? Moi, je suis absolument certain que on est en proximité permanente avec nos internes en niveau 1 et y compris en ça se passe massivement et je pense que ça pédagogiquement ça a quand même beaucoup de valeur. Il faudrait quand même qu'on puisse recruter de façon importante, il faudrait qu'on puisse rémunérer réellement ces maîtres de stage, c'est-à-dire que les rémunérations ne soient pas évaporées entre le moment où elles sont émises par l'État et le moment où elles n'arrivent jamais chez nous. Et puis, vraiment, là, faites quelque chose. En tous les cas, sur l'Île-de-France, on nous a dit qu'il fallait recruter 1500 maîtres de stage. Sur les 200 premiers qu'on a proposés, il y a 20 concrétisations. Donc, on ne va pas y arriver vite.
Alors, merci beaucoup de donner l'occasion de préciser les choses sur ce point-là. C'est extrêmement important. Je pense que la question du succès ou pas de cette quatrième année, le facteur principal, c'est la question du recrutement des maîtres de stage universitaires. Il y a beaucoup d'autres facteurs du succès, mais celui-ci est absolument clé. Je vous cache pas qu'on a eu des périodes un peu difficiles, effectivement, cette année en 2023 sur les possibilités de formation des maîtres de stage universitaires. Je vais peut-être pas remettre une pièce dans la machine parce que il y a eu, à coup de communiqué, pas mal de difficultés entre différents acteurs qui concernent la formation des maîtres de stage. Le dénouement a été plutôt heureux et c'est plutôt une bonne chose. Donc cet été, on a enfin pu obtenir la garantie des pouvoirs publics qui est une enveloppe dédiée à la formation des maîtres de stage qui soit sanctuarisée, qui soit pas concurrentielle du DPC, donc de la formation continue sur d'autres types d'actions.
J'ai juste une question sur la durée et la façon dont ça se passe, la formation.
Oui, bien sûr. Alors je termine juste là-dessus, puis je vous réponds. Donc, les actions de formation de maîtres de stage ont pu réouvrir à la rentrée très massivement. Et on a, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais plus de 70 formations organisées là dans les mois qui viennent, donc ce qui est colossal. Et vraiment, je peux vous assurer qu'on est au charbon pour essayer de former avec l'ensemble des organismes qui participent à ça. Les techs sont assurés là jusqu'à la fin de l'année, et le ministère de la Santé, via la DGOS, a demandé à travailler sur un nouvel arrêté, a missionné la conférence des doyens pour ça, pour sécuriser la formation des maîtres de stage à partir de janvier 2024. Donc hier encore, il y avait une réunion sur le sujet, les choses avancent plutôt dans la bonne direction, mais tant que les arrêtés sont pas sortis, il faut rester prudent. En tout cas, c'est certain que la question de la formation des maîtres de stage est absolument clé. En pratique, comment ça s'organise? Alors, comment ça s'organisait jusqu'à aujourd'hui? C'était des formations globalement de 2 jours, on va dire une formation présentielle de 2 jours. Et dans la nouvelle mouture qui est en train d'être travaillée à partir de 2024, il y aura probablement une formation en distanciel courte sur les aspects réglementaires, facultaires, plus une formation qui pourra aller de 1 jour à 2 jours et qui sera certainement... c'était une demande qu'on avait différente lorsqu'on veut devenir maître de stage d'externe, ce qui est assez différente de quand on veut recevoir un interne, a fortiori un interne en phase de consolidation. Et donc, il y aura des parcours de formation qui seront un petit peu fléchés et différenciés. C'était vraiment une demande très forte qu'on avait et qui, a priori, qui devrait être acceptée par les pouvoirs publics.
Alors, 2 choses. C'est-à-dire que moi, j'estime que les formations préalables, c'est un vrai frein pour être maître de stage. Alors que quand tu acceptes d'être maître de stage, tu acceptes d'avoir un regard sur ta pratique. Et ça vaut, à mon avis, ça vaut toutes les évaluations du monde. Si le gars, il est volontaire, on lui impose pas 2 jours de formation d'entrée de jeu. Moi, j'ai deux de mes associés, ça fait 15 ans que je les bassine pour être maître de stage. À chaque fois, ils ont fini par le faire. Là, ça fait maintenant 3 ans qu'ils le sont. Mais à chaque fois, ils me disaient, mais qu'est-ce qui nous bassine avec leur formation préalable, etc. Ils étaient volontaires pour un maître de stage. Ils voyaient que moi, j'étais interne depuis, je recevais des internes. Mon premier interne prend sa retraite, donc ça fait un moment que j'y suis. Et donc, pour moi, si vous voulez, le fait d'accepter de recevoir quelqu'un, d'avoir un regard sur sa pratique, ça vaut toutes les évaluations du monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et on en profite, on en a parlé il y a pas longtemps, on participe à tous les colloques avec des internes pour faire découvrir la médecine générale et découvrir l'installation. Moi, je pense que les équipes de l'URPS font des démonstrations de l'exercice de maître de stage. Ce serait bien que ce soit inscrit dans le cursus universitaire, qu'on puisse aller, nous, équipe de l'URPS, aller au sein de l'université faire des cours sur les conditions d'installation, les conditions de travail, etc. Il y a des choses qui devraient être entendues par l'ensemble des étudiants, quel que soit leur cursus. Et ça, ça devrait être instauré dans le cursus universitaire. J'en profite que tu sois là pour que tu fasses un nœud dans ton mouchoir, pour que ce soit vraiment, qu'on mette ça en place, parce que je pense sincèrement que c'est important, plutôt que de rencontrer 20 ou 30 internes comme ça lors de colloques pendant une heure. Si on allait à la fac, tu vois, avec les équipes de l'URPS, on fait ça, ça dure une heure. On peut faire ça plusieurs fois dans l'année, tu vois.
Mais une opération mais il faut séduction, impérativement faire c'est ça, ça. Une opération séduction pour
information.
Information, parce que les jeunes ne savent pas ce que c'est l'exercice libéral, ils ne savent pas quelles sont les conditions de s'installer, ils ne savent pas combien ça va leur coûter, ils ne savent pas quels vont être les rapports avec la caisse d'assurance maladie, ils ont la trouille de s'installer et c'est légitime.
Alors, je profite de cette question pour remercier beaucoup l'URPS Île-de-France, non pas pour cette invitation qui me fait très plaisir, mais plus largement pour le travail qui est fait pour aider à recruter les maîtres de stage universitaires, parce que je sais qu'il y a beaucoup de coups de fil qui sont passés et avec une grande efficacité. Donc vraiment, je vous remercie, c'est très utile pour l'ensemble des départements universitaires et pour les internes. Et sur ce qui a été dit sur le fait d'intégrer, enfin de faire un lien entre l'URPS et l'université, je pense que c'est vraiment l'enjeu de cette phase de consolidation aussi. Hein. Vous avez vu que dans le rapport, sur les axes de formation de cette quatrième année, un des axes très forts, c'est la professionnalisation, l'ancrage territorial, faciliter l'installation. Et donc, on peut tout à fait imaginer travailler pour que dans la phase de consolidation, il y ait des liens très forts avec les acteurs territoriaux. Donc, je prends bien, je vais pas dire le point, sinon vous allez m'accuser de trop traîner avec des gens qui ont ce tic de langage. Mais en tout cas, c'est bien noté et avec grand plaisir pour y travailler. Et dernier point par rapport à la question de la formation pour devenir maître de stage. Alors, je suis évidemment pas à 100% d'accord sur le fait qu'une formation n'est pas nécessaire. Par contre,
elle est nécessaire,
mais pas préalable. Si tu veux. Tu vois, c'est ça. Il faut qu'elle soit intégrée dans le cursus, quoi. Le gars, il est maître de stage, et puis après, bon, ça va, tu vois. Les rapports, on est habitué à avoir quelqu'un à côté de soi, etc., à discuter avec lui. On écoute les questions, tu vois, et puis on voit des fois qu'il tique sur nos habitudes, etc. Donc, tu vois,
je comprends bien.
On apprend ensemble, tu vois.
Mais... Alors, ça devrait peut-être pas être dit dans ce podcast. Parfois, il peut arriver que la formation survienne quelques semaines lorsqu'il y a des petits problèmes d'agenda, que le stage débute là. C'est à partir du moment où il y a un engagement du MSU à se former très rapidement. C'est des choses qui peuvent des fois se négocier de gré à gré. Après, la formation nous semble vraiment importante pour des tas de raisons. Enfin, je pourrais y revenir si vous le souhaitez, mais je suis d'accord sur le fait que la démarche et l'acceptation d'avoir un regard extérieur sur sa pratique, c'est vraiment un gage de qualité et d'ouverture des médecins qui est extrêmement forte. Et on a des travaux qui documentent ça. On a, par exemple, fait un travail dans les Yvelines, exhaustif sur tous les médecins généralistes des Yvelines, sur la prescription d'antibiotiques. Alors, un peu sauvage, hein, qui regardait pas les indications, tout ça, mais qui regardait juste le taux de prescription d'antibiotiques par médecin généraliste. Et la variable qui écrase tout le reste, bien plus que l'âge, le genre, tout ce que vous voulez, exercice groupe solo ou pas, c'est est-ce que le médecin est maître de stage ou pas. Et quand le médecin est maître de stage, il prescrit beaucoup moins d'antibiotiques, et je pense que ça correspond très bien.
Tu as une angine et que tu as un interne, tu es obligé de faire un streptotest. Et que tu aies envie ou pas, que tu aies le temps ou pas.
Exactement.
C'est évident. Voilà. Parce que si tu le fais pas, tu as l'air de rien. Donc, tu fais le streptotest.
Et
le malade revient trois jours après parce qu'il a toujours mal et comme l'interne n'est pas là, tu lui
t'as pas l'air d'avoir une bonne expérience.
Juste avant de passer la parole à Léo.
Je te vois là.
En tout cas, ça force le médecin et je pense que c'est ça qui est vraiment très important.
C'est une plaisanterie, mais c'est vrai.
Et quelque part, ça oblige à être capable d'argumenter sa pratique devant un confrère et ça, c'est extrêmement important pour la qualité, je pense vraiment.
Une remarque, je pense, de Léo, donc dans le public.
De nouveau, Léo Sillion, interne en médecine générale à Paris. Il y a deux choses qui ont été dites qui sont effectivement capital. La maîtrise de stage et le système vraiment de compagnonnage qui existe, je pense, c'est une richesse inestimable de la formation en médecine générale. Et ça, les internes rejoignent absolument ce propos. Ils sont très attachés. Et par ailleurs, ce qui a été dit par le professeur Saint-Lary, quand même, on peut être d'accord, est extrêmement vrai. Aucun autre organisme, collège universitaire professionnel, n'a réussi à déployer de tels efforts pour augmenter ses capacités de formation, pour passer en l'espace de 5 ans, plus que doubler ses capacités de formation universitaire. Ceci étant dit, ce qui nous inquiète, et là je reviens simplement aux faits qui nous sont donnés, hier, nous recevions, les syndicats d'internes, un courrier de la coordination de médecine générale Île-de-France et Centre-Val-de-Loire, nous annonçant qu'ils ne sont pas en capacité d'accueillir les internes, pas dans 3 ans, dans 6 semaines. On n'a pas les maîtres de stage pour accueillir les internes qui ont passé l'internat cette année. Ce problème-là, si c'est un caillou dans la chaussure aujourd'hui, il augmentera sur 3 ans de manière exponentielle. Puisque ces internes qui n'ont pas eu de niveau 1, ça veut dire qu'il n'y a pas le nombre de maîtres de stage en SASPAS pour les prendre derrière. La promotion d'après, et je suis désolé de vous le dire, il y a 1 000 inscrits en moins pour l'internat l'an prochain. Pourquoi ? Parce qu'à cause de la réforme du deuxième cycle qui est catastrophique, beaucoup ont fait le choix de redoubler. Ça veut dire qu'il va y avoir une accalmie l'an prochain. L'année d'après, vous avez 1000 internes de plus et donc nécessairement près de 600 ou 700 internes de médecine générale en plus. Ça va être la dévastation dans les DMG, dans l'état actuel. Et ce qui vraiment, voilà, on alerte depuis longtemps là-dessus, mais simplement, les DMG ne sont pas prêts. Ils le disent eux-mêmes et j'aimerais aussi simplement ce point une explication. Je suis désolé si mes mots sont durs, mais pour nous, la situation est grave. C'était aussi quand même, je trouve, un manque de courage terrible de la part des départements de médecine générale de se tourner vers les syndicats d'internes pour annoncer la mauvaise nouvelle aux internes et leur dire, recommandez-leur de ne pas choisir médecine générale en Île-de-France, passer un certain classement, puisqu'ils ne pourront pas être correctement formés. Et je pense que là, il doit y avoir un message clair, puisqu'on y revient souvent, il y a un problème de communication autour de cette quatrième année. Il faut que les DMG, le CNGE, puissent communiquer directement auprès des internes et donner un état voilà, de la réalité de voilà ce qu'on peut former, voilà les progrès qu'on a à faire, mais sinon ça va entretenir et ça va donner ce genre de drame de gens qui redoublent en masse de crainte d'être pris dans des réformes qui voilà, sont aujourd'hui, on trouve, peu abouties.
Merci beaucoup de me donner l'occasion de préciser ce point, parce que c'est un point important. Et effectivement, la lettre est partie de deux coordinateurs. Vous savez, tous les ans, alors je vais essayer de pas faire trop rébarbatif et technique, mais tous les ans, il y a une commission, enfin, quelque chose qui s'appelle l'ONDPS, qui réfléchit à la répartition des postes d'internes par spécialité et qui réunit les différents collèges d'enseignants, enfin, toute une carrière d'acteurs. Dans le cadre de la réflexion sur le nombre de postes d'internes en médecine générale, le CNGE a évidemment été sollicité et on a fait des propositions pour répartir sur l'ensemble du territoire. On souhaite que, c'est très important pour l'accès aux soins, que plus de 40% des internes puissent être fléchés vers la médecine générale. Et ça a bien été entendu, puisque 40,7% des internes cette année vont être fléchés en médecine générale, c'est-à-dire 40% plus globalement les quelques FST, notamment FST médecine polyvalente. Simplement, sur la question de la répartition par zone, le CNGE a fait un très gros travail pour voir quelles étaient les capacités de formation de chaque subdivision, donc de chaque UFR de santé. Et on a transmis évidemment toutes ces propositions à l'ONDPS. Pour des raisons autres, qu'on peut comprendre aussi, hein, je veux dire, chaque acteur a les raisons qui peuvent le pousser à agir, le ministère a tranché en chargeant lourdement l'Île-de-France et la région centre, donc Tours, pour des raisons d'accès aux soins, de déserts médicaux, tout ça, bien au-delà des capacités de formation que nous avions proposées avant l'été. Et alors qu'on pouvait accueillir ces 40,7% d'internes sur l'ensemble du territoire, certaines zones ont été moins dotées et on a surdoté l'Île-de-France et la région centre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi je suis très optimiste sur le fait qu'on arrive à mettre en place la quatrième année et qu'on recrute suffisamment de maîtres de stage dans les trois ans à venir. Par contre, je suis très inquiet pour la rentrée là dans quelques semaines pour proposer des terrains de stage de phase socle, notamment de SN1, enfin de stage niveau 1 chez le praticien. On va pas faire éclore une génération spontanée de maîtres de stage dans même pas deux mois. Et ça, effectivement, ça nous pose un vrai souci. Et alors que toutes les communications qu'on pouvait lire dans la presse sur cette année, la médecine générale va être complètement boudée à cause de la quatrième année, tout ça, force est de constater que ça n'a pas l'air d'être le cas. Tant mieux, on s'en réjouit. Aujourd'hui, les choix, quand on regarde, j'ai pas regardé là hier, mais quand on s'arrêtait jusqu'aux 2000, les 2000 premiers choix, il y avait globalement autant de choix de médecine générale. Les choix sont en cours actuellement. Et quand on s'arrête au 2000e à l'OCN, il y avait autant de choix de médecine générale que l'an dernier. Donc, ce qui veut dire qu'il est possible que, comme l'an dernier, il n'y ait pas d'inadéquation, c'est-à-dire très peu de postes qui soient pas pourvus. Et si on n'a pas de postes non pourvus à Tours et en Île-de-France, on va être dans une vraie difficulté cette année pour le SN1, à les accueillir. Et donc, ça, c'est une réalité. C'est pour ça qu'on a écrit aux internes, en tout cas que les coordinateurs de ces deux subdivisions ont écrit aux internes pour leur dire qu'il y avait une subdivision due aux choix politiques qui ont été faits pour ces deux régions.
Mais très concrètement, il y a une solution. C'est-à-dire qu'on peut leur trouver un autre terrain de stage dehors de...
Alors très concrètement, on a écrit à la DGOS qui m'a répondu ce matin et qui propose une réunion de travail pour essayer de trouver des pistes de solutions, mais la situation n'est pas simple à gérer pour les six mois qui viennent. Voilà.
Donc c'est une boulette. Donc ils ont fait une boulette.
En tout cas, c'est un choix qui nous met dans une vraie difficulté pour offrir les terrains de stage. Voilà.
Allez, on va prendre une toute dernière question de Léo encore.
Alors, dans ce cas, on fait vraiment très rapide. absolument pas pour noircir le tableau, mais en tout cas, j'entends votre discours qui est bienvenu et se veut rassurant et permet de clarifier un certain nombre de points pour les internes. C'est vrai qu'on a parfois une perception à cause des remontées très inquiètes des internes qui nous prennent aussi. C'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui, à cette rentrée qu'il n'y a pas assez de maîtres de stage. Alors vous nous dites, on les aura dans 3 ans, on a l'impression qu'on ne les a pas. On vous donne l'analyse juridique qu'on a partagée avec vous, qui vous dit, les textes ne sont pas applicables à la médecine générale. Mais vous nous dites, bon, ce sera le cas dans 3 ans. C'est quand même beaucoup d'inquiétude. Alors autant on sera toujours là pour travailler avec vous, pour écrire ces éléments au fur et à mesure, mais il faut quand même voir que, déjà pour nous, il y a trop d'éléments qui sont un recul du droit des internes sur cet allongement de l'internat qui est fait dans des conditions qui ne sont pas optimales. Tout est fait à la précipitation. Et ça n'est pas d'ailleurs la pierre jetée au CNGE, hein, mais le ministère, la DGOS, tout le monde court après les deadlines et les informations. Les choses sortent 3 jours avant les choix de spécialité. Enfin, ce n'est pas une situation pour ceux qui sont confrontés à ces choix. Et simplement, si aujourd'hui on nous dit les choix seront dégradés, le statut sera différent, il y aura aussi là-dessus contestation, il y aura retour. Je veux dire, si vous nous dites aujourd'hui, un interne de médecine générale, docteur junior, n'aura pas les mêmes droits qu'un docteur junior de spécialité, notamment pour les choix, alors qu'ils sont réputés être sous le même texte de loi, c'est-à-dire l'arrêté du 17 avril 2017, bah, il y aura un recours au tribunal. Et il y aura là-dessus, forcément, voilà, on ne peut pas avoir un statut différentiel sous le même texte de loi. Donc on peut se réclamer de rentrer dans le droit commun, mais dans ce cas, on ne peut pas y déroger. Ou alors, et toutes ces clarifications, je ne doute pas qu'on puisse leur trouver des solutions, mais dans le temps qui est imparti, il va falloir de vrais efforts pour voilà, rassurer tous ces gens qui sont confrontés à ces choses aujourd'hui.
Moi, j'ai entendu il y a quelques minutes quand même qu'il y aurait une nouvelle lettre de mission qui allait vous parvenir dans quelques jours. Donc, on peut reclarifier les choses.
Alors, il semble qu'elles soient effectivement en préparation, mais je ne l'ai pas encore reçue, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Peut-être juste sur ce qui a été dit. Je ne voudrais pas laisser croire qu'il y aura des droits dégradés pour le DES de médecine générale, ce ne sera vraiment pas le cas. La question, c'est juste où fixer le curseur, et chaque discipline le fixe différemment sur le nombre de choix qui peuvent être préfléchés. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de réglementaire, il n'y aura pas, encore une fois, d'entorse à un quelconque texte de loi. Simplement, il faut qu'on réfléchisse à ce qui est faisable en pratique, et encore une fois, l'esprit de la phase de consolidation, c'est vraiment d'accompagner le docteur junior sur le terrain de stage qu'il a identifié comme étant professionnalisant, et on l'espère même comme peut-être son futur lieu d'exercice après son année de phase de consolidation. Et sur le fait qu'aujourd'hui, j'ai cru comprendre que... Enfin, je voudrais là aussi pas laisser entendre qu'on n'est pas en capacité d'accueillir l'ensemble des internes. On était tout à fait en capacité d'accueillir 40% des internes. C'est juste le choix politique qui a été fait de surdoter certaines subdivisions parce qu'elles ont encore plus que d'autres besoin de médecins demain, qui ne correspond pas aux capacités de formation actuelles. Mais sur la globalité de la France, on a ces capacités. Et enfin, pour dans 3 ans, eh ben écoutez, peut-être qu'on reparlera en janvier ou février quand les arrêtés sur les formations à la maîtrise de stage seront parus, parce que en fait, c'est beaucoup ça qui va déterminer nos capacités de formation et puis aussi les capacités de recrutement d'enseignants universitaires. On n'en a pas parlé, mais les maîtres de stage, c'est évidemment capital. Mais vous savez qu'aujourd'hui, le ratio d'enseignants dans les facultés de médecins généralistes par rapport au nombre d'étudiants est de l'ordre de 1 pour 61 étudiants. Quand on compare aux autres DES, je vais vous donner une illustration, le DES de psychiatrie, qui est probablement un des moins bien dotés, on est à 1 sur 13. Donc vous voyez, 1 sur 61, 1 sur 13, alors que le DES de psychiatrie est un des moins bien dotés. Donc on a besoin d'un plan de nomination d'enseignants rapide et important. On y travaille avec les pouvoirs publics. J'espère que... dans les mois à venir, il y aura des annonces intéressantes qui pourront être faites de ce point de vue-là. Mais c'est évident que pour pouvoir encadrer les étudiants de manière optimale et sur une année supplémentaire, on a besoin de capacités de formation plus importantes.
Une toute dernière question avant de laisser le professeur Saint-Lary retourner faire ses consultations.
Oui, bonjour. Natacha Régensberg, secrétaire générale adjointe de URPS. Je reviens sur ces 200 maîtres de stage ou 250, je ne sais plus, qui spontanément, lorsqu'ils ont été sollicités, ont proposé de devenir des maîtres de stage et qui ont été donc bloqués pour 90% d'entre eux. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, empêche de dire, bah, écoutez, oui, ce sont des maîtres de stage, on les accepte, ils feront une formation où ils seront audités d'une façon ou d'une autre, mais qu'est-ce qui peut empêcher aujourd'hui un médecin qui a fait sa formation, qui a été à l'hôpital, qui a été enseigné, puis qui a enseigné, de devenir maître de stage dans une période de pénurie et lorsque lui-même est volontaire? Est-ce que c'est une question de locaux? Est-ce que c'est une question autre sur le plan pratique?
Alors, sur le plan pratique, c'est difficile de vous répondre individuellement sur les 280 que vous avez évoqués. Et je pense qu'il y a deux niveaux de réponse. Le premier, c'est que il y a eu, comme vous le savez, des grosses difficultés vis-à-vis de la formation des MSU sur le premier semestre, on va dire. Donc, un certain nombre de formations qui n'ont pas pu avoir lieu et donc qui a ralenti la dynamique de formation des maîtres de stage. Mais c'est en train de se corriger et les formations ont réouvert très massivement depuis la rentrée. Donc, j'espère que là-dessus, on va pouvoir absorber peut-être pas les 280, mais en tout cas une grande partie d'entre eux. Et après, vous avez raison, il y a probablement aussi une question autour des prérequis. C'est très important qu'au niveau des locaux, au niveau de la qualité d'exercice et de supervision, on corresponde aux attentes et ce à ce à quoi on s'est engagé auprès des internes. C'est qu'on a co-signé une charte de l'encadrement des internes, alors avec un autre syndicat d'internes, mais peu importe, autour de ce qui est attendu des maîtres de stage. Et donc, il y a effectivement quelques prérequis qui sont attendus, mais je pense pas que ça concerne, voilà, que ça bloque la majorité des médecins qui se proposaient à être maîtres de stage que vous avez évoqués. Voilà, il faudrait regarder individuellement pour chacun, mais encore une fois, je pense que la majorité ont été bloqués parce qu'il n'y avait pas de formation qui était possible à un moment et ça réouvre très largement. Donc, je ne doute pas qu'on va être sur une dynamique beaucoup plus positive et rapide de recrutement de maîtres de stage à partir de ce mois-ci.
Jean-Paul Amon.
Quand même, 280 là qui sont sollicités de façon vraiment exceptionnelle hein, par l'URPS, 20 à la sortie. Il y a un moment où il va falloir quand même faire un effort quoi. Ces gens-là, ils sont volontaires, ils acceptent d'avoir un regard sur sa pratique. Il faut que tous les départements de médecine générale tous soient un peu plus souples. Justement dans l'acceptation de ça, parce que on a besoin de maîtres de stage, on est dans une période de désertification qui concerne la médecine générale plus que tout, c'est capital qui est que les internes soient pas freinés pour leur stage. Donc là il y a une vraie pédagogie à faire auprès de chaque département de médecine générale et que nous on puisse aller à l'université expliquer les conditions d'exercice, les conditions de formation, etc. en libéral. Ça, pour moi, ce sont les deux choses. On est dans une période de désertification et ce serait bien que le ministère se sorte les doigts parce que franchement là il y a un vrai problème.
Alors pour le ministère je peux pas vous répondre mais par contre pour les départements
faut y aller.
Le département universitaire ouais. Général je peux vous garantir qu'ils sont très 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 demandeurs de maîtres de stage universitaires et que effectivement il y a eu ces difficultés en début d'année indépendant de notre volonté mais que les choses sont en train de se corriger et que
eh ben, écoutez, pas imaginer dont acte
là ils touchent les mains à plat le sentez, sol les jambes tendues
vous sentez qu'il y a la pression chez nous il y a la pression qui monte quoi parce qu'il y a là on se dit ça se désertifie il y a des volontaires. Et à la clé, il n'y a pas de maître de stage. Ça, alors là, franchement, c'est insupportable. Et s'il faut qu'on aille le dire au ministère et ailleurs, on ira. Hein, parce que franchement, il y a le feu.
Merci
mais,
à tous.
Pardon, pour... juste ouais. Quand même un chiffre. J'entends bien, hein, mais sur cette période particulière. Mais comme le rappelait Léo Sillon, encore une fois, on a plus que doublé le nombre de maîtres de stage France entière en 5-6 ans. Donc peut-être qu'il faut faire preuve d'encore plus de souplesse. Mais voilà, les résultats sont quand même importants. Et on est d'accord, il faut... accélérer pour recruter massivement les maîtres de stage, c'est, je pense, bien l'objectif qu'on partage.
Le vrai problème, il est que ces médecins-là, on forme davantage de médecins, mais il y a de moins en moins de médecins en libéral. Donc, c'est ça le problème.
Et qu'en plus, on n'arrive pas à garder les 280 qui sont volontaires voilà. Pour être maître de stage. Merci à tous pour l'ensemble de vos remarques, questions et requêtes. Olivier Saint-Lary repart avec un carnet plein de notes et il pourra aller négocier auprès du ministère ou autre. Merci beaucoup Olivier Saint-Lary, très bonne journée à vous et à très bientôt.
Merci beaucoup, merci à vous de votre présentation.